J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grosstête et Rémi Pascal sur Radio B.
Auditrices et auditeurs, bonjour, moi c'est Thomas.
Et moi c'est Rémi.
On se retrouve une seconde fois pour donner suite à notre premier podcast pour continuer à essayer de décortiquer ce sujet si vaste qu'est la sécurité alimentaire et l'agriculture. Comment faire en sorte que se nourrir avec un climat qui change et des ressources naturelles qui diminuent? Pour ceux qui l'avaient suivi, notre premier podcast vous avait replongé dans l'histoire de l'agriculture et avait pour but de découvrir comment et pourquoi l'agriculture était apparue. Pourquoi elle avait perduré, mais aussi ce qu'elle avait entraîné. L'agriculture a modifié notre manière de vivre et permis notamment la création de structures sociales complexes. Fou, non ? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réécouter le premier podcast de la série « Aux origines de l'agriculture ».
Mais alors Thomas, c'est quoi la suite ? On veut savoir.
Pour la suite, on va vous parler de plats que vous connaissez, de territoires, de culture et de gastronomie en général. Et surtout d'un mot que l'on connaît un peu tous sans toujours savoir le définir, le terroir.
Ouh là là, mais c'est bientôt l'heure de manger là, ça va nous donner faim tout ça.
Ah ça, c'est sûr que c'est un risque, mais il est bon à prendre.
Bon alors, mets-moi en appétit, c'est quoi un terroir ?
Tu vas devoir attendre un peu pour manger. Pas tout le monde ne t'expliquera ce qu'est un terroir de la même manière. Déjà, ce qui est ultra important, c'est que le mot et le concept de terroir est purement français, à tel point qu'il n'est presque jamais traduit dans les autres langues. Alors que pourtant, l'existence des terroirs n'est pas du tout réservée au territoire français. C'est un concept qui s'applique partout dans le monde.
Mais pourquoi c'est que français ?
Bon, il faut savoir que beaucoup de concepts liés à la cuisine, la gastronomie, ont été conceptualisés en France et ont été répandus dans de nombreuses autres régions du monde. La France a utilisé la cuisine comme une arme politique dans l'histoire.
C'est vrai qu'on se la pète un peu avec notre cuisine. Bon d'ailleurs, ça ne me dit pas ce que c'est qu'un terroir.
Ouais, tu sais, c'est ennuyeux les définitions.
Est-ce que tu veux qu'on demande à Fabrice Lucchini de nous la lire ?
On peut ?
Bah, Thomas, on est sur Radio B, tout est possible.
Carrément. Fabrice, c'est à toi.
L'UNESCO a dit, Thomas, écoute ça, auditeur néophyte. Un terroir est un espace géographique délimité, défini à partir d'une communauté humaine qui construit au cours de son histoire un ensemble de traits culturels distinctifs. Distinctif, c'est tonton qui passe ses journées au bistrot du coin, ça c'est distinctif. Ou c'est cette obsession culturelle qu'ont les Français à connaître le nom des départements, ça aussi c'est distinctif. Et cette communauté construit aussi des savoirs et des pratiques qui lui sont propres et qui sont fondées sur un système d'interaction entre le milieu naturel et les facteurs humains.
Oh, attends Fabrice, tu peux nous la refaire en plus simple
hein ? Oh, personne n'a compris, c'est normal, c'est pas sorcier là, on est sur Radio B. Si t'as besoin de piger, t'as qu'à aller sur l'internet et taper terroir comme un grand.
Oh, du calme. Bon, merci Fabrice, c'était super sympa. Ça sera tout pour cette fois. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un terroir, c'est la rencontre entre des hommes et leur territoire. Et qu'au-delà d'une rencontre, c'est une véritable histoire qui dure dans le temps. Un terroir, ça ne se crée pas en deux jours.
Une véritable histoire d'amour, si je comprends bien. Mais pour être sûr de comprendre, donne-moi un exemple concret, parce que là, ça reste flou.
Bon, ça marche. On va partir sur quelque chose de bien français. Tu aimes le roquefort ?
Oh, les fromages forts, j'adore ça. C'est produit où, déjà ?
Sur le plateau des Causses, dans le sud du Massif central, en Aveyron. Et justement, on va comprendre pourquoi.
Pendant ce temps-là, je coupe le pain pour l'apéritif. Hein.
Pour commencer, ce qui fait le terroir du Roquefort, c'est le paysage et le sol des grands plateaux des Causses.
C'est-à-dire ?
Sur ces plateaux, l'altitude, le vent, le caractère calcaire des sols font que sur certaines zones, tu ne peux pas produire des cultures de céréales. Le sol n'est pas assez riche et c'est pour cela qu'on fait de l'élevage, beaucoup plus adapté à ce type de terroir. L'élevage de moutons, de brebis, dans ce cas.
Ah d'accord, je m'étais déjà fait la réflexion. C'est vrai que dans les zones de montagne, on retrouve souvent plus d'élevage que dans les grandes plaines. Mais en fait, c'est surtout qu'en montagne, on ne peut rien faire d'autre.
C'est exactement ça. Et attends, l'influence du territoire ne s'arrête pas là. Le sol et le climat d'un terroir vont favoriser la croissance de certaines plantes, certains arbustes, qui nourriront tes animaux et qui donneront des propriétés spécifiques à leur lait.
On est ce que l'on mange. Ça marche aussi pour les brebis, en fait.
Ah oui, ça marche pour tout. Et attends, je n'ai pas fini sur l'influence du territoire sur la production du fameux roquefort.
Ah bon ? Bon, écoute, continue. Mais je commence à me préparer une tartine. Hein.
Ouais, vas-y. Pour la majorité des fromages, les caractéristiques du sol et du sous-sol vont influer sur la fermentation et l'affinage. Dans le cas du Roquefort, sur les plateaux d'Écosse, les cavités souterraines calcaires offrent des conditions de température, d'humidité et de circulation d'air idéales pour permettre le développement d'un champignon particulier qu'on appelle Penicillium roqueforti. C'est ce champignon qui donne cette couleur vert-bleu et cette texture et ce goût typique au Roquefort.
Ah ouais, ouais, ouais. Oh, et, on me la fait pas, moi. Hein. C'est pas le type de cave qui va influencer le goût du fromage, hein. Ça serait quand même.
Mais si, non, mais je rigole pas. Et c'est la même chose pour le vin, par exemple. En fonction des régions, des caractéristiques des roches dans lesquelles sont entreposés les fûts, on peut avoir des saveurs différentes qui s'y développent, souvent dues au type de micro-organismes, bactéries et champignons.
Ah ouais, alors ça, je m'y attendais pas quand même. Bon, si je récapitule un peu, avant de nous servir un verre, évidemment, le Roquefort, il est produit sur le plateau d'Écosse, et il n'y a que là-bas qu'il peut être produit parce qu'il y a un climat, un sol et un sous-sol spécifique.
Ouais, tu as tout compris. Mais il y a un aspect dont je t'ai pas encore parlé qui a influencé la création de ce fromage et de n'importe quel produit dit de terroir. Tu vois de quoi je parle ?
La passion pour les odeurs fortes de l'époque.
Ça pourrait, mais pas tout à fait. Tu commences à toucher le sujet du doigt, si tu as bien suivi.
Oh, je n'en ai pas perdu une miette, Thomas.
Tu parles de ta tartine ou de mes explications ?
Oh, les deux, évidemment.
Bon, ça t'aura pas échappé, mais j'ai beaucoup parlé de facteurs environnementaux qui ont amené à produire du Roquefort sur cette zone et qui en ont fait un produit de terroir d'Écosse. Le paysage, le sol, le climat, mais je n'ai pas encore parlé des facteurs...
Des facteurs humains.
Ah, ça me rassure. Tu suis bien. Oui, je parle des facteurs humains. Tu te souviens, dans la définition, le terroir est décrit comme quelque chose qui se construit au cours de l'histoire entre le territoire et les hommes qui s'y installent. Il développe une culture, des savoirs et des pratiques spécifiques à ce territoire.
Ok, et donc, dans le cas du Roquefort, ça donne quoi ?
Le Roquefort est un fromage. Le fromage a sûrement été inventé par hasard dans l'Empire romain. On s'est rendu compte que transporter du lait dans des vessies de brebis faisait cailler le lait. Le fromage sera donc présent dans les civilisations héritant directement de l'Empire romain, la France faisant partie des pays dans lesquels les traditions fromagères se développent le plus. De plus, il s'agit d'un aliment fermenté, qui permet la meilleure conservation des produits. Ces pratiques de fermentation se sont d'ailleurs développées de manière systématique dans l'ensemble des grandes civilisations du monde sous différentes formes, tout simplement pour des questions de conservation de nourriture. Pour encore te citer un autre point, c'est aussi l'influence de la religion qui a pas mal joué de manière importante dans le développement de nombreux fromages en France. Les pratiques d'affinage étaient en effet à l'époque très maîtrisées dans les monastères et la religion était présente et liée à l'agriculture. Bon, après, c'est compliqué et long de te citer tous les facteurs humains qui ont fait que le Roquefort a fini par être inventé et produit durablement sur ce territoire.
Ouais, je commence à comprendre. En fait, le terroir est aussi influencé par des facteurs techniques, sociaux et culturels. Il y a aussi un truc que je retiens, c'est que la création de ce produit de terroir a été permis par d'autres territoires, comme ton exemple de l'Empire romain avec le Roquefort.
Ouais, excellent, tu pointes du doigt quelque chose qui me tenait à cœur de te mentionner. En effet, bien que la création d'un produit de terroir demande que l'entièreté de ce qui est utilisé pour façonner le produit provienne du territoire en question, les influences culturelles, techniques peuvent venir de loin. C'est globalement le cas pour l'ensemble de notre cuisine bien française, qui, au-delà des influences de l'Empire romain, a vu des influences beaucoup plus lointaines pour construire son identité. L'Asie, l'Amérique du Sud, par exemple. Les pâtes viennent d'Asie et font partie intégrante de la cuisine traditionnelle italienne. On connaît aussi des tomates spécifiques de certains terroirs en France, comme la tomate de Marmande, par exemple. Mais avant la découverte de l'Amérique du Sud, pendant les grandes expéditions du XVIe siècle, la tomate n'existait même pas en Europe.
Ah, le multiculturalisme a influencé nos plats, que l'on juge en fait les plus traditionnels. Ça me pose une autre question. Un terroir, ça fait quelle taille ? C'est quoi, un département, un pays ? Une seule montagne peut suffire ?
Oh, mais c'est la tartine de Roquefort qui t'a mis aussi en forme. Ah, tu me devances sur tous les sujets. À ce niveau, ça dépend. On peut parler de terroir à l'échelle d'un massif montagneux, d'une vallée, d'un département ou d'une région actuelle, ou voire du territoire français à l'échelle d'un pays. Il faut retenir que la notion de terroir, pour un produit, est surtout délimitée sur des zones, souvent assez petites, qui ne collent pas spécialement parfaitement avec les frontières de nos départements. Les frontières du terroir sont alors délimitées par des caractéristiques paysagères spécifiques. Le plateau d'Écosse, par exemple, que l'on voyait tout à l'heure pour le Roquefort. Dans la zone de production du comté, elle est par exemple à cheval entre plusieurs départements, Doubs, Jura, Ain et entre deux régions, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.
Mais attends, un terroir, ce n'est pas défini par ce qu'on appelle les AOP ou un truc du style ?
Exactement. Enfin, AOP, c'est un label. Fondé il n'y a pas si longtemps, 1992. Créé au niveau de l'Europe pour protéger des produits qui ont été produits, transformés et élaborés dans une aire géographique déterminée, en mettant en œuvre le savoir-faire reconnu de producteurs locaux et des ingrédients provenant de la région concernée. En soi, c'est un peu la définition de la protection d'un terroir. Il en existe pour tout type de produits en France, et derrière tout ça, il y a une notion de protection, mais aussi une grosse question de meilleure valorisation économique de ces produits. Derrière les AOP, il y a aussi un business, dans certains cas, malheureusement.
Mais pourquoi on a besoin de créer ça? Ça marche vraiment? Tu as l'air un peu sceptique quand même.
Non, ça a son intérêt pour faire parler des produits de chaque région, pour protéger certains savoir-faire. En fait, tout ça, c'est aussi monté dans le cadre d'une industrialisation des procédés de fabrication et de l'ensemble des produits qui aujourd'hui fait que l'on peut presque s'affranchir du terroir.
Mais attends, il n'y a plus besoin d'être dans les caves calcaires d'Écosse pour faire du roquefort? Ça veut dire quoi ça?
Ben non, justement, pas exactement. Avec les procédés industriels, on peut contrôler la température, l'humidité et inoculer des fromages avec le bon champignon, le Penicillium roqueforti dont je parlais tout à l'heure. On est capable de remplacer des processus naturels avec des processus maîtrisés en laboratoire et en usine.
Ça veut dire que les fromages que j'achète en supermarché ne sont plus des AOP ?
Alors si, justement, c'est là où les AOP a ses limites. Pour favoriser les véritables savoirs des régions, par exemple, la marque Société du grand groupe industriel Lactalis produit aujourd'hui 70% du roquefort français. Mais il est noté AOP. Le label AOP évite la contrefaçon de produits en évitant la production de produits de manière complètement détachée du mode de production ancestral. Par exemple, faire du roquefort dans le Mississippi n'est pas possible grâce aux AOP. Mais ça ne permet pas forcément de maintenir les méthodes, les véritables méthodes ancestrales. Souvent, comme les cahiers des charges sont assez précis et complexes, et intègre des méthodes industrielles, des agriculteurs utilisant des modes de production encore plus artisanaux et avec aucune technique industrielle ne peuvent pas rentrer dans l'appellation.
Bah, c'est pas cool ça. Tu t'embêtes à maintenir l'héritage des vraies pratiques agricoles et de transformation en utilisant le moins possible les techniques industrielles et tu n'es pas considéré comme AOP ?
Ouais, il y a des côtés négatifs, mais aussi positifs. Ce sont les intérêts économiques et de productivité qui priment. Faciliter le travail et la rapidité de certaines méthodes industrielles pour fabriquer des plus gros volumes permet à la fois d'en produire plus, de répandre la consommation de ce fromage au niveau français et international. Ça peut être une force commerciale pour un pays et contribuer à sa réputation.
J'avais même entendu que Barack Obama avait, lors de son premier repas à bord de l'avion présidentiel Air Force One, demandé de la moutarde de Dijon pour accompagner son repas. Alors, comme il n'y en avait pas, la ville de Dijon avait envoyé une caisse de moutarde à la Maison Blanche.
Et ça, c'est sûr, notre gastronomie traverse les frontières et a une sacrée réputation. C'est aussi le cas du comté, où l'appellation a entraîné une production énorme de ce fromage, très apprécié dans le monde et particulièrement en Chine, qui nous achète de gros volumes actuellement. Il faut se dire qu'en gardant uniquement les méthodes purement traditionnelles, on ne pourrait peut-être pas manger du roquefort autant et cela resterait réservé aux habitants de la zone de production. Est-ce bien ou mal? C'est pas à moi de trancher.
Bon, et d'ailleurs, ça me fait soulever un dernier point. Si on reprend ton exemple sur le plateau d'Écosse, ou par exemple la zone AOP Comté, si tout le monde se spécialise dans la production d'un seul produit, d'un seul fromage par exemple, ben, ça va poser un problème de, comment tu dis déjà, de
résilience.
Résilience.
C'est dans le titre de l'émission, Rémi. Mais bon, je te l'accorde car tu permets d'aborder un dernier sujet intéressant. Déjà, un territoire résilient, c'est quoi? C'est un territoire qui a la capacité de nourrir sa population en quantité et en qualité suffisante dans le temps et quoi qu'il arrive. Par exemple, des limitations en quantité de pétrole.
Donc, si tout le monde fait que du comté sur ce territoire, ça n'aide pas le territoire à être résilient.
Oui, justement, c'est un peu le souci. Les AOP entraînent une meilleure valorisation du produit, du coup, qui se vend plus cher. On vend plus cher du lait destiné à faire du comté que du lait standard. Et donc, tout le monde est poussé à faire du lait comté dans le territoire, car ça rémunère bien. Les conséquences, c'est que les terres finissent par coûter très cher. Et puis, la zone se spécialise et ça devient difficile, par exemple, pour des maraîchers, des arboriculteurs, de s'installer sur cette zone. Et bien que j'adore le comté, je n'ai pas encore prévu d'en faire ma seule source d'alimentation. Et par exemple, dans mon territoire, dans le Revermont, pas très loin de Bourg-en-Bresse, où j'habite aujourd'hui, qui est en majorité dans l'AOP comté, on manque cruellement de production de fruits et légumes pour nourrir la population présente.
Bon, je ne sais pas toi, mais tout ça m'a bien mis en appétit. Alors, avant de passer à table et pour finir, j'imagine, Thomas, que tu ne nous as pas parlé de tout ça pour rien, et juste pour nous faire saliver. T'as encore un message à nous faire passer, j'imagine.
Ouais, tu me connais bien. Et oui, effectivement, avec tout ce qu'on vient de voir, il y a un message à retenir. C'est qu'il existe une intime relation entre l'homme et son territoire, et cela n'est pas anodin. Les systèmes agricoles ont été construits par les contraintes et les opportunités de leur territoire avec la culture des gens qui y habitent. Ce que tu manges, au-delà de refléter qui tu es, normalement reflète où tu vis. On vient de le voir avec un exemple concret qui est le Roquefort, mais c'est la même chose avec l'ensemble de nos produits, qu'ils soient bruts comme les légumes, les fruits, les viandes, ou transformés comme les vins et les fromages.
Mais ça ne reflète plus trop où tu vis aujourd'hui. T'as vu notre repas ?
Ah, ça c'est sûr. Avec la mondialisation et surtout grâce au modèle agricole et agroalimentaire industriel, tu peux manger un peu ce que tu veux, où tu veux. On arrive même à adapter des cultures, certaines productions, à des territoires qui n'y étaient même pas forcément favorables. Ça entraîne par contre souvent plus de consommation d'énergie que si on produisait ce qui y était vraiment adapté. Pense aux tomates en Bretagne. Pour avoir autant de production, il faut bien des serres chauffées.
Mais les terroirs, ça existe encore alors ?
Bien sûr. Mais cette notion de terroir est un peu oubliée du fait de la nourriture industrielle qui elle-même a son histoire et qui a permis la généralisation de la nourriture dite non territorialisée. Comme on l'a vu tout à l'heure, des labels comme l'AOP essaient de mettre en valeur ces terroirs et malgré leurs défauts permettent de mieux valoriser certains savoir-faire territoriaux.
Mais alors c'est quoi les enjeux pour construire des territoires résilients ?
Bah, pour les consommateurs, c'est d'essayer de se reconnecter le plus à leur territoire en termes d'alimentation, manger le plus possible ce qui est produit à côté de chez soi. Pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la grande distribution, c'est d'essayer de prendre le plus possible en compte les méthodes territoriales pour produire et transformer les produits et de réintroduire le plus les produits du territoire dans leur rayon. En deux mots, c'est vendre des produits qui viennent et qui sont transformés sur ce territoire. Tu t'imagines bien sûr que derrière tout ça, il y a aussi une notion de limitation des transports et donc de l'énergie dépensée.
Ouais, je vois. Au final, pour nous, c'est accepter qu'on ne mange pas n'importe quoi n'importe où.
Exactement. Mais ça, on aura l'occasion de parler encore plus de ces sujets et de se focaliser sur les questions de résilience et de spécialisation des territoires dans de futures chroniques. J'espère que cette chronique vous a autant mis en appétit que Rémi et vous a éclairé sur la notion de terroir et votre alimentation.
Retrouvez cette chronique sur le site de Radio B et si vous voulez aller plus loin, on vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les ressources pour creuser le sujet sur le site.
On se retrouve le mois prochain pour parler de sécurité alimentaire. À bientôt, c'était Thomas Grostet
et Rémi Pascal.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité ? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostet et Rémi Pascal sur Radio B.